Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Mester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour et bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente, réalisée par Eliane Girard et Frédéric Milano et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Cédric Chatelus. La gourmandise ce matin, c'est la réponse de Louis Ferdinand Céline à un journaliste de The Paris Review en 1961. Quand ce dernier lui demande s'il écrit par plaisir, l'écrivain répond « Ah non, vraiment pas, si j'avais de l'argent, je n'écrirais jamais article numéro 1 ». Un peu plus loin, il raconte que la seule fois où il s'est intéressé à ses contemporains, ce fut catastrophique. C'est donc une chose à laquelle il ne se risquera plus. Il y avait Patrice Chéreau, moi je suis Patrice Bonmarché, a affirmé notre humble apothicaire de l'âme dont le charme est consolidé par le fait qu'il ne se prenne jamais au sérieux. Réalisateur ayant exploré tous les genres, scénariste, metteur en scène, écrivain, dessinateur, cet être extraordinairement prolifique exècre la procrastination et confesse une certaine maniaquerie. Enfant à Tours, il rêve de dessin et de cinéma sans savoir qu'il passera sa vie à fréquemment mêler les deux. À 15 ans, il tourne des petits films amateurs, avant il se rend à Paris pour suivre le cours Littré puis intègre Littré. Il rédige quelques critiques au Cahier du cinéma et collabore 5 ans à la revue Pilote par l'entremise de Gottlieb à qui il a eu le courage d'écrire. Sur ses planches, ses cases sont en cinémascope. Il arrête la bande dessinée pour la pellicule mais insère tout de même des personnages de Gottlieb dans son premier film, Les WC étaient fermés de l'intérieur. Il triomphe avec le film suivant, l'adaptation de la pièce Amour, coquillage et crustacé qui devient Les Bronzés, soit le film dont les gens répètent en boucle les répliques partout où l'on se rend depuis 1978. Depuis cela, une œuvre colossale et protéiforme. Récemment, celui qui envoyait petit des cols à l'historique jeu des 1000 francs a eu l'idée de retourner au dessin après une collaboration avec l'imagerie d'Épinal et vient de publier un livre illustré autour des expressions comportant le mot tête. Ses projets foisonnent, donnons-lui la parole avant de nous évanouir. Bonjour Patrice Lecomte.
Bonjour.
Patrice Lecomte, avant l'émission, vous nous avez écrit que la mélancolie ne vous déplaisait pas et que vous n'étiez pas sûr d'avoir envie de trouver un remède. Mais je vous pose quand même la question rituelle, quel est votre rapport à la mélancolie ?
Oh, le rapport à la mélancolie est un rapport plutôt affectueux, c'est-à-dire je ne m'en méfie pas. La mélancolie, ça correspond à une espèce de flottement, un petit peu comme quand on fait la planche, il y a un étang, on fait la planche, on regarde le ciel, on n'avance pas, on fait du surplace. On se laisse aller.
Donc ce n'est pas une mélancolie agressive ?
Non, non, ma mélancolie, quand ça me tombe dessus, elle n'est pas agressive. Mais quand je dis tombe dessus, c'est que vous ne pouvez pas la sentir venir, la mélancolie. Pendant longtemps, j'ai pensé que la mélancolie était forcément liée à une forme de tristesse, de désenchantement, mettons. Et je ne suis pas loin de penser qu'il peut y avoir des mélancolies joyeuses. Alors j'ai beau chercher dans mes souvenirs, j'en ai pas trouvé. Mais je pense que c'est pas antinomique. Mais en tout cas, les mélancolies que je pratique, la mélancolie que je pratique, mélancolique et désabusée, comme dans la chanson de Gainsbourg, c'est une mélancolie assez confortable, à condition qu'elle ne dure pas trop longtemps.
Patrice Lecomte, dans votre livre illustré « Faites la tête », qui est un catalogue de têtes où on trouve tête de turc, voilà. Et il y a Victor, tête de lit, qui a quand même tout d'un dépressif, puisqu'il reste au lit, sa vie est de rester dans son lit et de ne plus jamais se lever. Mais pour vous, c'est presque joyeux, en effet.
Oui, parce qu'il travaille dans une grande surface de literie et lui adore ne pas se lever le matin. Donc un matin ils savent pas, le lendemain matin ils savent pas, et il finit par passer sa vie au lit. Autant vous dire que pour moi c'est l'horreur absolue, c'est-à-dire que rester au lit une journée entière, mais même quand j'ai 42 fièvres, je peux pas rester dans un lit. Quand je suis réveillé, ben je me lève. La notion de grasse matinée est une chose qui m'effraie. Donc ce Victor qui passe sa vie au lit n'est pas un autoportrait, loin de là.
Patrice Lecomte, vous avez adapté un livre de Jean Tellet, Le magasin des suicides, en film d'animation. Bon, dedans, tout le monde est déprimé et veut se suicider, évidemment. Et puis, il se passe un truc un peu terrible, c'est qu'un bébé naît, il est la joie de vivre.
Oui.
Absolue. Dans une interview à propos de ce film, vous disiez, le suicide n'est pas une solution que vous prenez, mais la tentation est là.
Oui, parce qu'il y a tout le temps là la tentation dans les... Enfin, je dis souvent que la vie est maritime, c'est-à-dire vous êtes en haut de la vague, et puis un jour vous êtes au creux de la vague, et puis quand on est au creux, on dit ça va remonter, quand on est là-haut, si on est pessimiste, on dit ça va redescendre, etc. Mais donc, dans les moments de creux de vague, c'est vrai que le suicide peut être une tentation. De passer à l'acte est une autre affaire, et c'est pas demain la veille que je vais enjamber le balcon, mais c'est vrai que quand on en a un peu sa claque de tout... c'est une solution commode, un peu dégueulasse et lâche, hein, bien sûr, face à la vie, face aux gens qu'on aime, face à tout le reste du monde, mais c'est une solution très très égoïste, il me semble-t-il, mais dans le fond, à partir du moment où ça va pas être très gai, tout ça, mais on peut raconter
des trucs,
on va rattraper le coup très vite avec des histoires rigolotes. C'est vrai que quand on est mort, on n'est plus là pour se regretter. C'est-à-dire que avant de passer à l'acte ou avant de décéder, on se dit oh non, je veux pas partir maintenant parce qu'il me reste tout ça à faire. J'ai des idées en tête, je voudrais faire ceci, cela, etc. Mais une fois qu'on est mort, on peut plus dire ça. Donc une fois mort, on n'est pas là pour se regretter, mais c'est les autres qui morflent.
Bon, et comme disait Suran, il est de toute façon toujours trop tard pour se suicider, alors autant pas le faire et rester en vie.
Autant pas le faire, je suis d'accord.
Ouais, alors j'annonce le sommaire des réjouissances pour nous, les vivants. Dans quelques instants, Patrice Lecomte, vous allez convoquer Bertrand Blier, des erreurs reconnues, des événements passés derrière, Jean Echenoz, Santana, Paolo Conte, Albert Marquet et du vélo, juste après le morceau Le Retour de Barbara Carlotti, sélectionné par les programmateurs musicaux de la chaîne.
Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vois le campanile qu'un jour j'avais laissé un beau matin d'avril. Enfant, j'étais partie, je reviens après tout pour trouver le repos, mais je suis à genoux. Aux cloches, taisez-vous, ne brisez pas mon rêve, cet exilé
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Patrice Lecomte.
Vous êtes mon premier voisin. Je suis vraiment content que vous soyez là. On va se sentir moins seul. Vous êtes célibataire ?
Veuf.
Condoléances. Moi, je suis chômeur. Et vous ?
Inspecteur de police.
Ça tombe bien.
Quoi ?
Que vous soyez inspecteur de police.
Pourquoi ?
Parce que je viens d'assister à un meurtre dans le métro.
Ah oui ?
Oui. Et le pauvre bougre, il a ramassé un coup de couteau dans le ventre.
Ah bon ?
Bah oui. Et puis ce qui m'emmerde, c'est que le couteau, c'était le mien.
Et alors?
Bah, mettez-vous à ma place, je me pose des questions.
Quelles questions?
Bah, je me demande si c'est pas moi qui l'ai tué.
1979, Buffet froid de Bertrand Blier, que j'affectionne terriblement aussi. On entend Depardieu, un chômeur blasé, semi-confessant un meurtre qu'il aurait commis à Bernard Blier, inspecteur de police impavide et seul autre habitant de la tour sinistre qu'il habite. C'est un film quand même de dépressif très très drôle, Patrice Lecomte.
Oui, oui, mais c'est pour ça qu'on peut être dépressif et poilant. À la fois, ce qui est le cas de Bertrand Blier, qui a tout le temps vraiment des débuts de film absolument fulgurants, dont celui-là. Le début de Buffet froid est quand même inouï, parce que ça, ce qu'on vient d'entendre, ça suit la scène avec Michel Serrault, qui
est plutôt
planté dans le bide, dans un couloir du métro, et c'est des scènes, enfin, c'est un dialoguiste extraordinaire, quoi. Et puis là, de réentendre la voix de Depardieu, bien sûr, mais de Bernard Blier, le père de Bertrand, c'est forcément émouvant, quoi. Mais moi, j'adore l'écriture de Blier, qui est parfois biscornue, provocante, mais talenteuse.
Il a une grande tendresse pour ses personnages. Et c'est quelque chose qu'on retrouve chez vous aussi, Patrice Lecomte.
Moi, je ne peux pas arriver à imaginer mettre en scène écrire déjà et puis mettre en scène des personnages que je n'aimerais pas. Ça me dépasse. C'est-à-dire que même les pires salauds, il y en a eu quelques-uns, des gens pas très recommandables dans certains de mes films, il faut que je retrouve, mais dans la vie c'est pareil en fait, il faut que je retrouve non pas des excuses, mais un petit côté de eux, un truc qui fait que ce sont pas des salauds à 100%.
Et par exemple, Michel Blanc dans « Viens chez moi, j'habite chez une copine », vous n'aviez pas envie de le gifler?
Ben, on a envie de lui botter le cul tout le temps, hein. On a envie de le foutre dehors, mais il est tellement pitoyable, quoi, que, et puis il a cette espèce d'assurance des petits. Son comportement est tellement culotté qu'on se dit, il est odieux, mais c'est balèze quand même.
Dans Buffet froid, on a affaire à des assassins auxquels on a envie de faire des câlins. Je pense par exemple à Jean Carmet, qui est terrorisé à l'idée de rester seul après un meurtre qu'il a commis et qui veut toujours de la compagnie.
Oui, mais parce que la solitude, les assassins, on pense que ce sont vraiment des belles ordures, des crapules, ce qu'ils sont aussi, parce que d'être assassin, c'est pas très très reluisant, franchement. Mais les assassins sont des gens comme les autres, presque comme les autres, c'est-à-dire qu'ils ont forcément aussi des côtés plus attachants ou plus fragiles, peut-être, hein, allez savoir.
Patrice Lecomte, vous allez faire tourner Depardieu bientôt dans Maigret et la jeune morte, l'adaptation de Simenon.
Oui, il ne fait pas la jeune morte.
Non, c'est justement parce que j'allais dire dans le rôle titre, mais j'allais faire la blague de la jeune morte.
Eh ben oui, ben, c'est vrai qu'il fait la blague, pardon.
Bravo. Alors ça a été décalé plusieurs fois là, à cause
oui,
de
ça a été décalé pour des raisons sanitaires, financières. C'est devenu compliqué de faire des films, de trouver l'argent. Et pourtant, c'est pas le budget du Titanic, hein, loin de là. Mais le cinéma est devenu une affaire. Non pas aléatoire, mais plus incertaine que ça n'a été. Mais on va pas tomber dans le 7 et mieux avant, parce que c'est un truc de vieux con, donc évitons ça.
Mes souvenirs sont là, accrochés près du cœur. Mes souvenirs sont là, accrochés près du cœur. Un par un, mes regrets viennent faire le reste. Un par un, mes regrets viennent faire le reste. Voilà pourquoi ce soir, moi, je pense à mes erreurs. Mes erreurs, mes erreurs. Voici, j'ai donné la vie, mes erreurs.
Mes erreurs de Ralph Bernet pour introduire une idée qui vous guide, Patrice Lecomte, savoir reconnaître ses erreurs. Est-ce que vous le faites aisément?
Depuis un certain nombre d'années, oui. Ça vient pas tout seul. C'est-à-dire que quand on est adolescent ou jeune homme, on pense non pas détenir la vérité, mais même si on sait qu'on se trompe, on le reconnaît pas. Et alors que de pouvoir dire à chaque instant, quand vous êtes en train de tourner un film, ou quand vous êtes dans la vie, ou quand vous êtes en couple, ou je sais pas quoi, de dire « Ok, je me suis trompé, je me suis trompé ». Et à mon avis, il y a des tas d'hommes politiques qui pourraient se permettre de dire ça,
oui,
quand ils se trompent, mais parce que on n'en veut jamais à quelqu'un qui reconnaît ses erreurs. On lui dit pas, pauvre con, t'as qu'à pas te tromper, on s'en fout de tes erreurs et tout ça. Reconnaître ses erreurs, c'est pas un aveu de faiblesse, hein, pas du tout.
Au contraire.
C'est de se dire, je me suis trompé, les gars. ou les filles, ou messieurs, dames, je me suis trompé. C'est arrivé de temps en temps chez les hommes politiques, mais oublions les hommes politiques, ils ne sont pas les personnes les plus intéressantes.
Oublions-les quelques minutes.
Oublions-les, non pas quelques minutes, quelques la vie siècles. Entière. Et je me suis rendu compte de ça sur le tournage de Tandem. J'avais fait installer un travelling pour un plan et puis je me rendais compte que ça marchait pas. C'était pas la bonne solution pour faire ce que j'avais en tête. Et donc j'ai dit au machiniste, écoutez, je suis désolé, mais je me suis trompé. On va démonter le travelling, on va pas faire ça, on va le faire comme ça, etc. Mais personne n'en a jamais voulu.
Patrice Lecomte, il y a quelque chose de frappant aussi chez vous, c'est que vous semblez avoir une foi et être un être qui ne se décourage pas. Je ne sais pas, je pense par exemple au fait que vous disiez que tous les films que vous avez faits, là je vous cite, même ceux que j'ai un peu merdés, j'y ai toujours cru. Et vous dites aussi, je ne sais pas quoi faire d'autre, donc ça fait quelques années que je tombe de cheval régulièrement et je ne suis pas rancunier, donc je remonte à cheval. Et là des choses assez formidables se profilent à l'horizon, donc je continue jusqu'à l'âge de Kirk Douglas.
C'est vrai que la bonne vieille image de je tombe de cheval et je remonte quand même sur le cheval, il faut pas en vouloir au cheval, parce que si vous êtes tombé de cheval, c'est peut-être de votre faute, hein, c'est pas forcément la faute de la monture, mais c'est vrai que si on n'a pas chevillé au corps une espèce d'énergie qui fait qu'on y retourne, mais pas d'une manière naïve et inconsciente enfin, des moments de découragement, j'en ai connu et j'en connais et j'en connaîtrai encore plein, ça évidemment, mais si on se laisse aller à fumer des clopes, on peut faire ça 2-3 jours, fumer des clopes sur un canapé en regardant le plafond, on peut faire ça un peu. Mais si on se ressaisit pas vite, alors on est foutu, quoi, parce qu'il y a, on est rattrapé par cette bonne vieille mélancolie, par les sables mouvants qui vous aspirent tout doucement, et puis quand on se dit, il faut que je sorte de là, c'est trop tard. Donc, je suis assez vigilant, je me laisse gagner par le découragement, quelque temps, par les mélancolies, quelque temps. Tous ces états-là, je les connais bien, mais je fais en sorte que ça ne s'éternise pas.
Ça veut dire que vous avez, Patrice Lecomte, cet élan vital qui vous fait sursauter, justement, quand vous sentez la mélancolie poindre, parce qu'elle peut être très engluante, comme vous le dites, elle peut nous rendre parfaitement passifs.
Oui, mais la mélancolie s'accompagne forcément d'une forme d'inaction, c'est-à-dire d'un lâcher-prise, un lâcher-rampe. Moi, l'inaction ne me convient pas. Je ne m'imagine pas en train de cavaler partout, faire des repérages de films, tourner, m'activer, etc., et être mélancolique en même temps. C'est pas possible. Non. Ça peut pas coexister. Et alors, comme je préfère être actif que inactif, la mélancolie, je lui fous un coup de pied dans le derrière assez facilement au moment où j'en ai marre.
En tout cas, la citation qui vous appuie, Patrice Lecomte, est la suivante. Quoi qu'on ait à vivre, un jour ou l'autre, c'est derrière nous. Alors, il y a deux sens dans cette citation, dont l'un est plus réjouissant que l'autre. Hein. Tout désagrément finit toujours par passer. Mais il y a aussi l'idée que toute joie aussi passe. Et puis l'idée de mort, la finitude totale, quand tout est réellement derrière nous.
Oui, mais je pensais à ça parce que en pensant aux choses redoutables de la vie, enfin les choses que l'on redoute, qui ne sont pas forcément des choses redoutables, les choses que l'on craint, on se dit « Ah, il faut faire ça, ça va... Enfin, » mais ces choses que l'on craint, dont on se dit ça va mal se passer, ça va être lourd à supporter, ça va être pénible, vivement que ce soit fini, et ben voilà, un jour ou l'autre, ce sera fini. Vous allez prendre le thé avec une vieille tante que vous pouvez pas blairer. Et ben un jour ou l'autre, c'est-à-dire dans 1 heure et demie, vous embrasserez cette vieille tante, et j'ai rien contre les vieilles tantes, hein, c'est un exemple comme ça que j'ai pris en l'air. Mais et puis vous retrouverez dans la rue, et puis vous prendrez un autobus, et puis le thé sera fini. Donc ça sert à rien de se faire une montagne trop importante des choses qu'on a affrontées, étant entendu que ces choses-là, quelles qu'elles soient, un jour ou l'autre, elles seront terminées. Alors les joies aussi, hein, bien sûr, mais moi je pensais aux choses pas marrantes.
Oui, et puis souvent, Patrice Lecomte, le fait d'imaginer la chose qu'on redoute est bien pire finalement que la chose elle-même quand
bien
elle
sûr.
Survient.
La peur n'empêche pas le danger.
On va découvrir votre réjouissant roman anti-spleen juste après un titre de la playlist France Inter, une collaboration de Gorillaz et de Beck de Valley of the Pagans. écoutez Remède à la mélancolie sur France Inter et nous sommes toujours en compagnie de Patrice Lecomte.
Je n'aime pas la psychologie. Je n'aime pas. C'est pas du tout une condamnation de la psychologie. Il y a des œuvres qui, chez Henry James, chez Proust, la psychologie elle est là et magnifiquement. Mais je n'aime pas travailler moi dans cette perspective là. Ça m'intéresse pas tellement. Je préfère. Ce que j'aimerais, c'est que plutôt que d'écrire des états d'âme ou des humeurs ou des états psychologiques comme ça, je préférerais que l'état intérieur du personnage, on puisse le déduire de son rapport au monde, de son rapport aux objets, au temps. Je pense profondément que tout lecteur devient l'auteur d'un livre.
C'est l'écrivain Jean Echenoz qu'on entend.
Je sais, j'ai reconnu.
Sur RFI en 2003, il signe votre sérum littéraire Patrice Lecomte, un roman publié la même année que l'interview, Au piano. Un roman dans lequel tout est surprenant, le rythme, le choix des mots, le discours rapporte et échange de pronoms d'une ligne à l'autre. Je vous laisse nous raconter l'intrigue brièvement, sans dévoiler...
C'est Jean Echenoz qui est un de mes cinq auteurs favoris et est un styliste formidable, mais qui ne se noie pas dans le style, qui ne se regarde pas écrire, parce que ça, c'est insupportable. Mais il a une manière d'écrire, de décrire, d'emmener, de vous prendre par la main. Le début de Au piano n'a rien de saisissant. Mais malgré tout, une fois que vous avez lu les deux premières pages de Au piano, et comme de tous les bouquins d'Echenoz, hein, bien sûr, vous pouvez plus refermer le livre parce que vous êtes trop bien avec cet auteur. Enfin, moi, je suis trop bien avec lui.
Il a un style assez cinématographique. Il a écrit quelques scénarios, je crois. Il a coécrit des scénarios, mais il a un style très cinématographique, visuel. Il décrit les lieux, tout.
Oui. Alors, je suis pas loin de penser que c'est un faux ami, c'est-à-dire que un faux ami du cinéma. Parce que quand on lit Echenoz, on dit il y a plus qu'à dire moteur, c'est bien, et hop. Mais en fait, non. C'est parce que c'est beaucoup plus subtil que ça, plus malin, et que si on se contentait de tourner ce qu'il a écrit en prenant ses bouquins comme si c'était des scénarios, mettons, eh ben on serait une espèce d'illustrateur ballot qui se contenterait de plaquer des images sur ses images à lui, alors que ses images à lui, elles sont plus fortes.
Patrice Lecomte, est-ce que vous nous feriez l'honneur de nous lire le début d'Au piano de Jean Echenoz?
Je ne sais pas si c'est un honneur, et puis surtout, il faut pas se merder, parce qu'à un moment, il parle de petits boutons de manchette montés en quartz onyx. Et quartz onyx, c'est pas facile
à
dire.
Prononcer.
Donc si je bute là-dessus, j'aurais prévenu.
Ouais. Vous aurez reconnu votre erreur.
Deux hommes apparaissent au fond du boulevard de Courcelles, en provenance de la rue de Rome. L'un, de taille un peu plus haute que la moyenne, ne parle pas. Sous un vaste imperméable boutonné jusqu'au cou, il porte un costume noir, ainsi qu'un nœud papillon noir et de petits boutons de manchette montés en quartz onyx, ponctuent ses poignets immaculés. Bref, il est très bien habillé, mais son visage livide, ses yeux fixés sur rien de spécial, dénote une disposition d'esprit soucieuse. Ses cheveux blancs sont brossés en arrière, il a peur. Il va mourir violemment dans 22 jours, mais comme il l'ignore, ce n'est pas de cela qu'il a peur. L'autre qui l'accompagne est d'apparence tout opposée, plus jeune, nettement moins grand, menu, volubile et souriant trop. Il est coiffé d'un petit chapeau à carreaux brun et beige, vêtu d'un pantalon décoloré par plaques et d'un chandail informe porté à même la peau, chaussé de mocassins marbrés d'humidité. « Il est bien ton chapeau », finit par observer l'homme bien habillé alors qu'ils vont atteindre les grilles du parc Monceau. Ce sont les premiers mots qu'il prononce depuis une heure. Moi, quand j'ai un début de bouquin comme ça, je me dis, mais je veux connaître la suite de ces deux-là. J'adore les romanciers, comme les cinéastes d'ailleurs, comme les créateurs, les conteurs d'histoire. J'adore les gens qui, comme quand on était petit et qu'on s'endormait dans notre lit, ceux qui savent nous prendre par la main pour nous emmener dans une histoire. Leur imagination. Parce que l'imagination n'a pas de limite, par définition. Et j'en veux à certains cinéastes ou certains romanciers, on parle de romans, certains romanciers, j'arrive à la page 25 et je dis, mais ils me racontent quoi là en ce moment? Et je sais pas encore ce qu'ils me racontent. Il y a des films dans lesquels on s'installe et au bout de 20 minutes, on sait toujours pas quel film on voit. Donc les débuts sont essentiels, quoi, à condition de jamais lâcher la main qu'on a saisie.
Mais c'est ce que fait Jean Echenoz dans Au piano, justement, Patrice Lecomte. Et ce qui est amusant, c'est qu'au début, on ne sait pas du tout pourquoi il a peur. On sait qu'il va mourir dans 22 jours. Mais on se dit, il va se faire tuer par des truands, là, dès la première scène, en fait. Et puis, pas du tout. Il va affronter un monstre, mais un monstre noir et blanc, qui est un instrument de musique.
Un piano.
un piano. Et ça frôle le fantastique par la suite. Mais il y a quelque chose qui me frappe à nouveau, puisque je ne peux m'empêcher de faire des parallèles avec vous, Patrice Lecomte, c'est que Jean Echenoz a une distance par rapport au tragique. On sent qu'il s'amuse, il y a de l'humour à chaque ligne. Il y a même des moments où il s'adresse directement au lecteur, où il commence à dire, il décrit une scène dans le métro, puis il dit, bon, cette scène est un peu ennuyeuse, donc en fait, je vais vous raconter tout ce qu'on peut faire avec un ticket de métro, on peut se curer les dents. Il s'amuse, et on retrouve ça chez vous aussi.
Oui, mais il y a quelque chose, je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais moi, je déteste pas ce mot, mais il y a quelque chose d'un peu goguenard chez Echenoz, c'est-à-dire qu'il est capable de raconter des trucs faussement sérieux, mais on sent bien qu'il a l'œil qui frise et qu'il s'amuse avec les mots, qu'il s'amuse avec les phrases pas tarabiscotées, mais les phrases surprenantes qui déboulent comme ça. Enfin, c'est pas un écrivain traditionnel, quoi. C'est pas bon, si vous voulez, il y a Jean d'Ormesson et Jean Echenoz. Enfin, je dis ça comme ça.
C'est-à-dire ?
Jean d'Ormesson, c'était classique, une écriture limpide, fluide, bourgeoise. Jean Echenoz est plus chaotique que ça, plus rugueux, plus inattendu, plus surprenant à chaque instant.
Il est très très surprenant. Alors là, il vient de publier Vie de Gérard Fulmar, et vous aviez choisi un autre de ses livres, Patrice Lecomte, chez Antoine Decaune, sur la chaîne, c'était Nous Trois. Ce qu'on retrouve comme influence chez Echenoz, il y a Laurent Stern, il y a Diderot, mais il y a surtout les séries noires, et ça je sais que c'est quelque chose qui vous parle, puisque on retrouve aussi beaucoup de cette noirceur dans vos films, Patrice Lecomte, et vous venez de publier une bande dessinée écrite avec Jérôme Tonnerre, qui est Deux passantes dans la nuit, aux éditions Grand Angle, avec les dessins d'Alexandre Koutlis. C'est noir aussi,
c'est série noire. Oui, c'est sombre déjà parce que ça se passe la nuit, alors donc c'est forcément un petit peu sombre, et puis que ça se passe en une nuit dans Paris sous l'occupation avec deux filles que tout oppose, une insouciante et optimiste et l'autre craintive et pessimiste.
Et qui a des raisons.
Et qui a des raisons de l'être. Mais c'est toujours pareil. Enfin, j'en reviens assez souvent à ça par inadvertance dans les choses que j'invente, les histoires que j'invente, c'est que j'aime bien faire se rencontrer des gens qui auraient très bien pu ne jamais se rencontrer. Et des gens qui, forcément, ne se ressemblent pas comme deux gouttes d'eau, parce que c'est pas intéressant de faire se rencontrer des gens qui se ressemblent. Il faut faire se rencontrer des gens que tout oppose, a priori, le caractère, l'itinéraire, enfin bon, tout ça. Et Arlette et Anna, puisqu'elles s'appellent Arlette et Anna, sont deux jeunes femmes qui s'accrochent l'une à l'autre, et on sait pas laquelle des deux est la bouée de sauvetage de l'autre. Peut-être elles sont deux bouées de sauvetage pour l'autre.
Patrice Lecomte, vous adaptez beaucoup d'écrivains dans vos films. Jean Tellier dans Le Magasin des Suicides, il y a Sfeig, il y a Simenon là à venir, et dans Monsieur Hir aussi. Est-ce que vous lisez beaucoup ?
Oui, je lis beaucoup. Je lis, je vais au cinéma, je vois mes amis, je vais au théâtre, je travaille, je tourne des films. Enfin, les journées font. Moi, je suis pour la journée de 35 heures.
D'accord.
Ça me permettrait de lire davantage, mais je lis le plus possible, oui, tous les jours. Mais alors, il y a un truc très bizarre avec la lecture, et ça, je n'arrive pas à me l'expliquer, mais peut-être vous aurez l'explication. C'est que même si un jour, à mon bureau, j'ai pas grand-chose à faire, de m'installer dans le canapé et de lire, ça va vous sembler odieux, affreux. J'ai l'impression de perdre mon temps. C'est-à-dire, je n'arrive pas à lire dans la journée.
Ah non, je suis comme vous. Je lis uniquement le soir, avant de dormir. Mais sinon, je lis dans les transports en commun, dans le métro aussi, oui. Ou dans les salles d'attente.
Alors, le train, je bouquine, dans les avions, je bouquine, tout ça, mais d'être à mon bureau, enfin là oui. Où je travaille, et de me poser et de lire, j'en suis incapable. Je ne sais pas pourquoi.
Du temps volé sur la nuit, finalement.
Oui,
on s'active pendant la journée physiquement. Non,
quand on lit un livre, surtout s'il y a un bon livre, on ne perd pas son temps. Moi, j'ai l'impression de perdre mon temps. Je dis, j'ai sûrement autre chose à faire.
Mais dans la journée uniquement, Patrice.
Dans la journée, oui, uniquement.
Il paraît que si vous étiez un livre, vous seriez le dimanche de la vie de Raymond Queneau, qui vous a accompagné secrètement toute votre vie.
Oui, oui. Quand on se disait Echenoz, c'est un des 4 ou 5 romanciers, auteurs que je préfère, Raymond Queneau fait partie du top 5, du top 5, en effet, parce que j'ai lu Raymond Queneau assez tôt, et relu régulièrement, et le dimanche de la vie, ou Pierrot mon ami, ou parce qu'on parle tout le temps de Zazie dans le métro, mais enfin le journal de Sally Mara, on est toujours trop bon avec les femmes, c'est des merveilles, et lui aussi, Queneau, un peu comme Echenoz d'ailleurs, dans une autre manière, avec une autre personnalité d'écriture, mais il aimait jouer avec le langage, s'amuser, être désinvolte, virevolté, enfin, et ça m'enchante.
Dans les auteurs, Patrice Lecomte, que vous recommandez, il y en a un que vous recommandez en cas de mélancolie persistante, et il paraît qu'on peut l'apercevoir sur votre postérieur. C'est Groucho Marx.
Ah ben, Groucho
et c'est
Marx.
Sa correspondance. Et oui. Expliquez l'histoire du postérieur, s'il vous plaît.
Oui, non, c'est vrai qu'il y a longtemps, très longtemps, j'étais tenté par... je me disais, je vais me faire tatouer. Alors, mais quand vous faites tatouer, vous posez deux questions basiques. C'est je me fais tatouer où, sur quelle partie du corps, et je me fais tatouer quoi. Eh ben, alors, un jour, j'ai fini par répondre à ces deux questions, et je me suis dit, alors, je vais me faire tatouer sur une partie du corps qui sera réservée à des intimes. Là, on est à la radio, alors ça n'intéresse personne. Donc, c'est sur la fesse gauche, et faire tatouer quoi? Ben, une idole, non, faut pas déconner non plus, mais, Groucho Marx.
Il vous accompagne partout.
Oui, oui, ben, il m'accompagne partout, oui, en effet, oui. Et c'est vrai que Groucho Marx, alors, si vous lisez un jour de déprime ou de mélancolie, sans aller jusqu'à la déprime, pardon, mais si vous lisez la correspondance de Groucho Marx, franchement, un coup de Groucho Marx et ça repart.
Ah oui, c'est très très drôle. Première chanson qui vous empêche d'être triste, Patrice Lecomte, elle date de 2002, Hoy es Adios, du groupe mexicain Santana, du nom du leader, le guitariste et chanteur Carlos Santana. Pourquoi ce morceau?
Ce morceau, quand je me suis dit Santana, oui bien sûr Santana, j'aurais pu en proposer une dizaine évidemment, mais c'est simplement parce que pour moi la mélancolie est une affaire immobile. Et quand j'entends Santana, ça ou d'autres titres évidemment, il m'arrive de danser tout seul à mon bureau quand je mets la musique un peu fort. Alors les gens d'en face, ils doivent se dire ce mec est fou, il danse tout seul chez lui. Et ça m'empêche de, si je bouge, si une musique m'incite à bouger ou à bouger même un tout petit peu assis sur une chaise, mais peu importe, ça évite la mélancolie. Le fait de bouger un peu ou beaucoup balaye d'un coup la mélancolie.
Patrice Lecomte, la musique est importante dans vos films, mais c'est pas le cas pour tous les réalisateurs. Je pense, je sais pas, il y a Renaud, par exemple, dans Viens chez moi, j'habite chez une copine. Il y a Richard Cochante dans Tandem, Gabriel Yared pour Une promesse. Enfin, et surtout le documentaire sur le Cambodge, Dogora, ouvrons les yeux, entièrement muet, qui a été inspiré par une musique.
Oui, absolument. C'est une musique d'un ami qui, hélas, n'est plus là, qui est parti beaucoup trop tôt. Étienne Perruchon, qui avait composé une suite pour orchestre et un chœur de 200 enfants. Et quand il m'a fait écouter ça, je lui ai dit c'est sublime, et il m'a offert cette musique en disant j'espère que cette musique vous inspirera un film. Et quelques temps plus tard, j'avais ça dans ce cadeau musical dans un coin de mon crâne, et j'ai fait un voyage au Cambodge, et j'ai jamais été bouleversé, ému, captivé par un pays comme par ce pays-là, le Cambodge. Et la musique d'Étienne Perruchon, allait savoir pourquoi, est remontée à la surface. Je suis rentré à Paris et j'ai dit à Étienne Perruchon, je sais ce que je vais faire avec ta musique, mais ça faisait que 25 minutes à l'époque quand il m'avait fait écouter. Donc un petit peu comme des fingers de Cadbury, je lui ai dit, tu pourrais pas me le faire un petit peu plus long.
Il y a un autre choix musical que vous avez fait pour l'émission Patrice Lecomte. J'aimerais qu'on en dise un petit mot avant de l'écouter. C'est le titre de 84, Comédie de Paolo Conte, dont vous remarquez dans une interview en 2011 qu'il porte presque le même nom que vous. Bon, vraiment, c'est assez flou. Et vous écoutiez en 2011 toutes ces chansons en boucle. Est-ce que c'est toujours le cas?
Oui, j'écoute très souvent. Mais vous savez, quand d'un seul coup, on fait passer les DVD qu'on a sur l'étagère comme ça, d'un seul coup, on tombe sur un compositeur, on tombe sur Santana, on tombe sur Paolo Conte ou sur des autres comme ça, et on se les refait pendant une journée, deux journées, trois journées, et sans cela c'est Paolo Conte. En plus, effectivement, si j'adore ce type là c'est pas uniquement parce qu'on a deux noms assez proches, mais c'est aussi parce que ce qu'il exprime, alors que je parle pas un mot d'italien, ce qu'il exprime, les émotions véhiculées par ses chansons sont des choses qui me transportent. En plus, il y a un côté assez swing chez Paolo Conte, enfin musicalement c'est vraiment fort. Et à un moment, il m'avait proposé un film qu'il avait écrit, un film musical. Et j'étais très très pour, je me disais c'est bien parce que pour l'affiche on va faire une économie avec Conte, on saura ça en commun. Enfin je voyais déjà l'affiche, puis ça s'est pas fait, comme des tas de choses ne se font pas.
Et alors peut-être que là j'ai beaucoup trop recherché Patrice Lecomte, mais il était passionné petit en tout cas par les arts graphiques, je sais pas s'il est toujours passionné par les arts graphiques, mais... Il a une histoire avec la bande dessinée. Il y a beaucoup d'auteurs de bande dessinée qui ont adapté son univers. Je pense à Crépax, Hugo Pratt ou Manara. Vous étiez au courant de ça ?
Pas du tout.
Non. Il était avocat aussi.
Ah, avocat, ça j'étais au courant.
Ça
mais...
je ne savais pas, moi. Je l'ai appris
Il a été avocat et chanteur en même temps. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'a pas été avocat puis chanteur. Non, non, il menait les deux carrières de front. Mais dessinateur, et... non, j'ignorais ça. Donc on s'est tous les deux appris quelque chose.
Vous n'êtes plus en contact avec lui ?
Si, j'ai vu il n'y a pas longtemps, au cours de son dernier concert, on est tombé dans les bras l'un de l'autre. J'aime vraiment beaucoup ce type-là. À chaque concert, il dit que c'est le dernier. Et puis il fait ses adieux comme Maurice Chevalier, puis il revient.
Ouais, comme le titre « J'arrête le cinéma ».
Absolument.
Un livre de Patrice Lecomte. On écoute Paolo Conte, comédie.
Va, 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 va. Ba 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 ba. Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy, comedy. Ah, comedy, comedy orchestra illusa Napoli, e poi sgridatami Napoli. Comedy, comedy don jour. Ta-da-da-dam, ta-da-da-dam, ta-da-da-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da-zam. La comédie don jour. La comédie de ta vie. La comédie, la comédie, la comédie, la comédie. Va va, 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 va va. La luce è piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy. Ah, comedy, anticamente vista Napoli, con lontanissimi binocoli. Comedy, comedy don jour.
Remède à la mélancolie sur France Inter avec Patrice Lecomte. Parlez-nous s'il vous plaît de votre amour pour le peintre fauve qui représente si bien les fleuves et l'eau, Albert Marquet.
Oui, quand vous voulez, c'est-à-dire maintenant.
Maintenant.
Parce que Albert Marquet, c'est un homme, je me suis un peu penché. Il est mort l'année où je suis né, donc c'est une espèce de passation virtuelle. Et j'ai appris des tas de choses sur lui, en dehors du fait que ces tableaux me plaisent, m'enchantent. Il est connu comme un petit maître, alors que pour moi c'est vraiment un maître, absolument. Et par exemple, j'ai appris qu'il était un peu discret et timide, enfin réservé. Et que donc il n'aimait pas, lui qui aimait peindre sur le motif, il n'aimait pas peindre et puis avoir des gens dans son dos qui le regardent peindre et qui disent « Ah, c'est bien ce qu'il fait ce mec-là », etc. Donc ça l'énervait. Donc il peignait tout le temps depuis des balcons. Donc quand il prenait une chambre d'hôtel ou quand il prenait un appartement, il demandait tout le temps le premier étage. Et quand vous regardez les tableaux de Marquet, vous vous rendez compte que 80% des tableaux de Marquet sont vus en plongée. C'est des points de vue qui surplombent
oui,
un peu.
Oui, c'est vrai.
Et en plus, il avait un truc formidable, c'est qu'il était très 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 myope. Et même chose, quand on voit les tableaux de Marquet, on comprend pourquoi c'est peint par un myope, parce qu'il y a quelque chose, il y a une évocation. Si on a le nez dessus, c'est ça qui est saisissant dans une exposition Marquet. Quand vous voyez un tableau de Marquet, vous vous approchez tout près et vous dites c'est pas possible, ça fait pas un tableau ce truc-là. Puis tout doucement, vous faites un petit travelling arrière personnel en reculant et petit à petit, d'un seul coup, le tableau apparaît, il a du sens, c'était un coloriste incroyable, il arrivait à évoquer des choses. Il était, un de ses meilleurs amis, c'était Henri Matisse. Ils étaient très copains tous les deux. Ils s'installaient aux terrasses des cafés, ils faisaient les concours de rapidité de croquis. C'était celui, alors il disait, tiens, regarde la marchande des quatre saisons. Et en cinq secondes, fallait qu'ils aient campé la marchande des quatre saisons. Cinq secondes pour quatre saisons. C'est ça, c'est dans cet ordre-là, les chiffres. Ouais, c'était un maître, il a peint énormément, il a pas arrêté de peindre, il travaillait. J'adore ce tableau.
Patrice Lecomte, il y a deux métiers que vous auriez aimé exercer, c'est peintre, justement, oui. Et marchand de jouets.
Oui, ben, peintre à condition d'être Albert Marquet.
Oui, évidemment.
Parce que si je pourrais être un barbouilleur, ça ne m'intéresse pas trop. Donc, et marchand de jouets, parce que j'ai toujours, sans tomber dans le vieux cliché, j'ai gardé mon âme d'enfant, n'est-ce pas ? C'est parce que ça, c'est assommant comme cliché. Mais c'est vrai que les jouets, les enfants jouer avec des enfants, conseiller des enfants pour des jouets et tout ça, j'avais un marchand de jouets à Tours que j'allais voir et il me conseillait, je discutais à... Et je me disais, franchement, le plus beau métier du monde, c'est marchand de jouets. Ou coiffeuse.
Oui, bah vous l'avez mis en scène d'ailleurs, comme objet de fantasme.
Oui, il aurait fallu que je mette une jupe, non, c'est pas bien. Mais donc, marchand de jouets, ça m'aurait plu.
C'est dimanche, c'est le jour des sports. Et la jeunesse en essor va produire son effort. Sur les routes, tous les amateurs, rêvant des grands jours coureurs, s'en vont roulant plein d'ardeur. Mais au milieu de leurs rêves, souvent quelle désillusion. Un caillou, un clou, ils crèvent, ils réparent. Et aïe non, sur le vélo.
Sur le vélo du coureur cycliste et chanteur André Perchicot, pour introduire l'activité qui vous grise, Patrice Lecomte, le patinage artistique. Non, pardon, je suis désopilante aujourd'hui, décidément. Le vélo, évidemment. Vous avez une minute pour nous parler de votre passion pour le vélo.
C'est une passion très simple, c'est que le vélo, vous n'avez pas besoin d'être Anquetil ou Eddy Merckx pour y prendre du plaisir. Vous êtes en forme, vous faites 50 km, vous êtes moins en forme, vous en faites que 45. Je fais du vélo à la campagne, j'aime bien faire du vélo tout seul, je pense à plein de trucs. L'exercice physique oxygène l'esprit, le cerveau travaille. Moi, il m'est arrivé très souvent d'être dans une période d'écriture, de buter sur des choses qui venaient pas bien, comme on dit, et de partir en vélo, faire ma grande virée quotidienne sous le soleil, quand les gens dorment. J'adore. Et d'un seul coup, les choses se débloquent. Et puis alors, par rapport à la mélancolie, bonjour, vous pouvez pas être mélancolique et pédaler, c'est pas possible. Ou alors, c'est que vraiment, vous déraillez. Et en vélo, quand on déraille, c'est pas bon.
Ça ne vous est jamais arrivé ?
Non, non, parce que faire du vélo nécessite quand même un minimum ou un maximum d'énergie. Si on peut, enfin, je fais pas du vélo pour me balader. Je n'ai pas le nez au vent pour respirer les lavandes ou que sais-je. Non, non, je fais du vélo pour me dépenser physiquement, pour avoir une vraie activité physique. Et là, à ce moment-là, vous pouvez penser à plein de trucs, mais vous pouvez pas vous laisser rattraper par les mélancolies parce que de toute façon, vous pédalez plus vite qu'elle.
Fuyons en vélo. Merci beaucoup, Patrice Lecomte, d'être venu dans cette émission.
Mais c'est moi qui vous remercie infiniment, Eva.
Je rappelle que vous signez cette année le scénario avec Jérôme Tonnerre de la bande dessinée Deux passantes dans la nuit, illustrée par Alexandre Koutlis et paru aux éditions Grand Angle, et que vous venez de publier un ouvrage ponctué de vos dessins, Faites la tête, aux éditions Flammarion Jeunesse. Votre pièce de théâtre The Canapé, mise en scène par Jean-Luc Moreau, sera normalement en tournée à partir de septembre 2021 et l'on patientera un peu pour votre adaptation du roman de Siménon, Maigret et la jeune morte avec Depardieu, et un peu plus encore pour celle des bijoux de la Castafiore d'Hergé. Chers auditeurs, la programmation musicale, les remèdes sont comme toujours sur le site de l'émission. Nous sommes sur les réseaux sociaux. J'espère que votre âme a l'énergie inverse de celle d'une cheminée nostalgique. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h10. Peace.